relever, restaurer, conserver le patrimoine de nos terroirs. Une émission de la Fondation du patrimoine, présentée par Bernard Cassanier et Olivier Seb.
Et Benjamin Villatte. Bonjour Benjamin, bonjour Olivier.
Bonjour à vous deux.
Voilà, on va les repos en cœur. Hein. C'est bien en cœur, oui.
On devrait faire les émissions en canon.
C'est ça, oui. Le canon, lequel ?
Pas parler de guerre, canon, pour l'instant.
Ceux du château de Foix, sur lequel nous allons revenir aujourd'hui.
Pas les canons, c'était les bombardes.
Donc on va aller se rafraîchir les pieds sur les bords de l'Ariège.
Très volontiers.
Dans la confluence de l'Ariège et de ?
L'Arger. Il manquait la R. L'Arger. Je ne sais pas les prononcer.
Bon, aujourd'hui, nous allons parler un peu de Gaston Phoebus, comte de Foix, un grand comte qui a régné pendant 48 ans sur son comté, qui a fait de belles choses et puis d'autres moins bien sûrement. Et il a imposé sa volonté à Launac en 1362, parce qu'il y a remporté une importante bataille contre la maison rivale d'Armagnac. Moi, j'étais plutôt Armagnac, plutôt...
Ça ne m'étonne pas. Hein,
et non, mais Bernard de Cassagne de Nérac, voilà, les Armagnacs. Très puissante famille aussi,
colossal,
les Armagnacs.
Ouais. Voilà.
Alors, beaucoup de grands seigneurs du sud-ouest furent faits prisonniers par les Fuxéens. Voilà, je le dis pour ceux qui ne savaient pas, comme Benjamin, qu'on appelait les gens de Foix des Fuxéens.
Ah bon ? Je ne le savais pas.
Voilà, maintenant, il le sait. Au cours de cette bataille.
Et Phoebus les fit d'ailleurs enfermer au château de Foix, en attendant que leurs familles et leurs proches puissent acquitter les rançons, le nerf de la guerre.
Voilà. Ça serait bien, maintenant, si on pratiquait la même chose. Là, on kidnappe le président de la République, on demande une rançon. Marqué Philippe le Bel, il y en a eu qui ont eu...
Bernard, vous allez vous faire embastiller.
François Ier, oui, il y a un tas de gens qui se sont fait enfermer. Il a fallu payer à chaque fois très très cher.
Et là, c'était des gens d'une certaine qualité qui ont été enfermés, les comtes donc d'Armagnac et de Comminges, les seigneurs d'Albret, Jean de la Barthe et les seigneurs de Pardaïa, qui furent enfermés quelques mois dans ces prisons effroyables du château de Foix, avant d'être transférés vers Pamiers, puis vers Mazères, pour assouplir leur détention.
Il devait faire froid dans les prisons.
Alors, les seigneurs d'Albret, c'était la famille maternelle de Henri IV, le bon roi de Navarre et du Béarn, bien entendu. Et Jeanne d'Albret, sa mère, avait un château, une résidence à Audos, à côté de Tarbes. Et elle revenait en carrosse, en passant par Vic-Bigorre et Montaner. Et elle revenait dans ses terres béarnaises. Et il y a un endroit où elle arrêtait le carrosse, entre pas loin de Montaner, où l'herbe ne pousse plus. On appelle cet endroit la pichade de Jeanne, parce qu'elle s'arrêtait toujours pour faire son besoin.
Comme quoi la petite histoire fait la grande.
Aussi. Mais la grande histoire n'est faite que de petites.
Par exemple. Alors avec cet argent des rançons, Phoebus, qu'est-ce que fait-il ? Il fait des travaux énormes puisqu'il aménage ses châteaux et il en possède beaucoup, dont celui de Foix évidemment, mais il y a bien d'autres. Hein, faudrait-il parler notamment de la tour Moncade à Orthez, puisqu'on parle de son lieu de naissance.
Le château, là il est né, oui, voilà. 1301. Hein.
Bravo. Ce siècle n'avait qu'un an, il faut que je le dise. Voilà.
Parce qu'on dit comte de Foix, mais c'est le comté de Foix. Parce que
comte de Foix Béarn.
Il a étendu, mais c'était le Béarn, voilà.
Parce que la bataille de Launac que vous évoquiez tout à l'heure, contre les Armagnacs, c'était justement pour défendre son héritage de Béarn qu'on essayait de lui spolier.
Oui, mais on verra qu'après, il se le fait spolier parce qu'Henri IV annexe le Béarn à la Navarre.
Oui.
C'est une autre histoire.
C'est beaucoup plus tard.
C'est beaucoup plus tard.
Lui, il a vraiment amené le comté de Foix dans une sorte de sommet de la puissance et du rayonnement. C'est un grand seigneur.
Le château fort de Lourdes, que l'on voit dominer Lourdes, appartenait également à Phoebus.
Voilà, il est un grand constructeur. Il fait beaucoup de châteaux dont plusieurs demeurent actuellement et pas du tout en ruine. Il y en a beaucoup qui sont restaurés. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il avait une cour autour de lui, qu'il avait fait des manuscrits. C'est un grand prince européen. C'est un grand personnage, Gaston de Foix.
Voilà, donc vous avez vu qu'il est devenu vicomte de Béarn, il n'était pas comte de Béarn, mais après il a pris complètement possession quand même de son territoire, hein. Alors de Marsan, de Gaillardin, et puis
d'Orthez.
Voilà, c'était surtout à Orthez, il était né à Orthez.
Mais il va séjourner quand même plutôt au château de Mazères.
Le château de Mazères qui n'existe plus aujourd'hui.
Voilà, il est en bas, là, dans la vallée basse de l'Ariège, pas loin de Toulouse d'ailleurs. Hein.
Alors en fait, revenons à Foix, parce que c'était son lieu symbolique, fort. Donc en fait, on va trouver un château qui va être modifié ensuite au 15e, au 18e siècle. Mais au 15e siècle, surtout, eh bien, il y a la tour ronde, une partie de celle-ci, qui servait de dépôt pour les archives. Et ce château sera ensuite transformé en caserne et puis livré à lui-même, ce qui accélérera bien entendu sa dégradation, puisqu'en 1570, on ne comptait plus que 8 hommes en garnison dans le château.
Non, Olivier, c'était plutôt 800, me semble-t-il.
Ah, c'est vous qui avez écrit. Alors, moi, je prononce. 8 hommes, non. Là, une petite garnison de rien du tout.
Il y en avait 800.
Avant.
À ce moment-là, en 1570.
C'est pas possible.
Vous le vérifierez.
Ah bon, d'accord.
Pourquoi la tour ronde? Parce que les tours étaient carrées au début.
Ah oui, bien entendu, les rondes, parce que c'est l'artillerie qui l'impose. C'est-à-dire qu'on est obligé de se défendre différemment, puisque l'artillerie impose en fait des fortifications qui font gicler les boulets à l'extérieur.
Puis les boulets, justement, comme ça, ripés. C'est le cas de le dire, et ne fissurez plus les murs.
Et à plus tard, à la fin du XVIe siècle, mais c'est surtout Vauban au XVIIe qui va le mettre en exergue, ce sont les redans, c'est-à-dire des sortes de proues de navires qui, elles, vont rendre pratiquement imprenables les fortifications que l'on fera autour du royaume de France.
Alors la tour carrée, elle, servait de grenier à blé.
Au départ, oui.
Voilà, la tour ronde aurait pu servir de coffre-fort, de grenier à blé, mais en monnaie sonnante et trébuchante aussi.
Ah tiens, pourquoi pas.
Bon, parlez-nous un peu de cette petite chapelle qui était un château.
Cette chapelle, c'est finalement le seul élément du château qui fut entretenu de façon convenable.
Toujours.
Les abords du château, les abords du rocher... étaient couverts par les broussailles. Alors, ils servaient à faire paître les troupeaux. On y venait presque en transhumance. Et les habitants... Bon, quoique c'était un peu bas. Et les habitants des lieux venaient y étendre leur draperie. On peut quand même dire que le château ne devait pas avoir très fière allure.
Non. Puis, à partir de 1480, à peu près, ou 79... Tout change.
Tout change. Le comte de Foix devint Henri III de Navarre et le dernier d'entre eux, devenu Henri IV, roi de France en 1607, annexera les terres pyrénéennes à la France.
Voilà. Il n'est resté roi que pendant 3 ans quand même, le pauvre Henri de Navarre, puisqu'il a été assassiné en 1610.
Oui, mais enfin, il est roi de France depuis 1580.
Oui.
Oui, bien plus tôt, 88 ou 89. 89, il est sacré à Chartres.
Oui, alors c'est pourquoi Chartres d'ailleurs?
Et parce que Reims était occupé, il ne pouvait pas se le permettre, par la Ligue notamment et les invasions qui étaient menacées depuis l'Allemagne, c'est-à-dire en fait l'Empire. Et il s'est retrouvé donc effectivement à Chartres, alors qu'il aurait pu penser être à Paris, mais à Paris il avait très peur de pouvoir rentrer. Il y avait continuellement des soubresauts de barricades.
Bien, Richelieu va intervenir dans cette histoire-là, parce que bon, ce château servait quand même de point de défense pour toutes ces vallées, effectivement.
Oui, Richelieu a fait démanteler énormément de forteresses en France. En fait, toutes les forteresses qui risquaient un jour ou l'autre de servir à des opposants du royaume, ils ont été décapités, c'est-à-dire qu'on a éliminé les tours en général et une grande partie des fortifications, mais Foix y a échappé.
Mais ils l'ont oublié.
Ils l'ont oublié, pourtant Richelieu avait demandé une ordonnance pour le faire raser.
Oui, bien sûr.
Il n'a pas toujours été obéi. Rapidement, parce que l'administration met du temps. Alors voilà, ça a permis de...
Vous en savez quelque chose.
Donc il était très coûteux de faire garder les bâtiments là, à cette époque-là. Hein.
Comme aujourd'hui encore.
Oui, bien sûr. Et aujourd'hui, bon, il y a un peu plus d'argent quand même, public qui circule.
Grâce à,
l'époque,
grâce à la Fondation.
On ne levait que l'impôt. On ne levait que l'impôt.
Alors en fait, on peut sauter directement au traité des Pyrénées en 1659, qui va faire que ce château, effectivement, est complètement inutile, puisqu'il est à l'intérieur des terres du royaume et qu'il ne défend plus la frontière comme auparavant. Et donc, on se retrouve avec une garnison au milieu du XVIIe qui commence à recevoir des prisonniers et le château devient de nouveau, comme il l'avait été au Moyen-Âge, une prison et une prison qui sert effectivement à la plupart des délinquants de la région.
Et puis la Révolution, également.
avec la création du département de l'Ariège. Ce pénitencier, donc, qui était cette prison plus ou moins liée à l'État, eh bien, il devient un pénitencier départemental, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, l'administration, enfin, si je puis dire, réorganise la gestion de ce château d'une façon convenable.
Et ainsi, dans cette prison, on y verra des personnes accusées ou prévenues en attente de jugement et d'autres qui étaient condamnées à de courtes peines. Il faut dire qu'après, l'origine des prisonniers était assez disparate. On y trouvait des mendiants, des bandits de grand chemin, des hommes emprisonnés pour des délits forestiers.
Oui, et donc parce qu'on n'avait pas le droit de ramasser le bois mort à l'époque. Hein. Même aujourd'hui, c'est même encore interdit par le code forestier. Mais bon, on peut le ramasser, personne ne vous dira rien.
Mais alors, petit à petit, on a quand même construit de nouveaux bâtiments sur les terrasses pour abriter l'administration pénitentiaire. Les prisonniers, eh ben, ils ont dessiné des tas de choses sur les murs. Donc, on peut considérer qu'on a des sortes de graffitis et puis des éléments qui permettent de connaître leurs conditions, des conditions de détention qui étaient absolument effroyables. Et la prison souffrit chroniquement d'une surpopulation. Autant dire que les choses n'ont jamais changé. Quand on regarde l'histoire, eh bien, on a l'impression de temps en temps que c'est le miroir du présent.
Et puis, arrive notre restaurateur en chef des monuments historiques.
Bien entendu, heureusement.
Voilà.
C'est Viollet-le-Duc.
C'était un de ses adjoints qui s'est occupé de Foix. Hein.
Au nom imprononçable.
Je ne sais pas, c'est pour ça que je ne le dis pas, c'est comme le nom de Dieu.
Bouess Will Waldenschien. Alors là, on pourrait mettre l'accent alsacien, mais ça me dit un peu difficile. Vous pourriez peut-être l'avoir, Benjamin.
Je m'en dispenserai pour cette fois.
En fait, on peut dire une chose, c'est que ça a été très restauré, c'est-à-dire que ce que l'on voit, eh bien, c'est une image du château de Foix, et c'est bien pour ça que depuis qu'il abrite les collections du musée, c'est un monument historique qui est symbolique pour l'ensemble de la région.
C'est très bien. Écoutez, la prochaine fois, on se retrouvera au château de Caumont, à la
limite, sur les traces de Phébus.
La limite du Gers et de la Haute-Garonne, pas très loin des Hautes-Pyrénées non plus, et on parlera de la famille de Castelbajac.
Merci à vous.
Au revoir, les amis.
Au revoir.
Au revoir.